j'envisage un peu ça vraiment comme un livre collectif. Hein. J'envisage pas du tout comme une conversation, enfin, une conférence suivie d'un échange. Hein. Vous m'arrêtez dès que vous avez des remarques, dès que vous avez des questions. Si je peux y répondre, j'y réponds. Si je peux pas, bah, je vous le dis. Donc, d'abord, je présente un peu l'institution de l'Exilarque, le Resh Galouta. Alors, le Resh Galouta, c'est en fait une institution qui existait en Babylone, à Babel, et qui consistait en fait à une représentation auprès du roi, perse ou parthe, etc., de la communauté juive. Alors, ce Resh Galouta, donc exilarque, donc ça veut dire arc, c'est le dirigeant, exil, donc le dirigeant de l'exil, donc traduit mot à mot, Resh Galouta. Donc, c'est quelqu'un qui avait des fonctions d'échange, d'interface avec la communauté juive et le roi, mais aussi qui avait des fonctions internes à la communauté juive, à savoir qu'il avait la possibilité de donner des jugements, de condamner à mort éventuellement, enfin toutes sortes de prérogatives, de régler les différends en termes de entre les gens, mais aussi de régler les questions d'argent, monétaire, de monnaie, de mesures, etc. Donc en fait, le Resh Galouta, c'est une institution qui a duré très très longtemps, qui a eu de nombreux arrondissements. Donc dans les textes qu'on connaît, en tout cas dans les textes juifs, la notion de Resh Galouta, elle apparaît à Yoyachin, c'est-à-dire en fait juste à la fin du premier exil, enfin au début pardon du premier exil, donc c'est à la destruction de Beth Amikdash, et le Seder Olam Zutra, il dit que en fait le premier roi, le dernier roi pardon de Yehuda a été le premier Resh Galouta, il s'appelait Yoyachin. Et donc, après, cette fonction, elle s'est perpétuée. Alors, elle s'est perpétuée, donc, comment ? Sous plusieurs aspects. Dans un premier temps, donc, le Resh Galouta, bon, c'est des choses qu'on peut lire un peu partout, mais ça sort de la Gemara, ça sort de différents Midrashim, etc. Cette fonction, elle s'est perpétuée. Alors, elle se donnait en général de père en fils, mais pas forcément, ça restait dans la famille. Et surtout, donc, il y avait toujours à chaque fois l'aval du roi et de Babylone, ainsi que l'aval des grands rachis yeshivot de Babel. Hein. C'est-à-dire, en fait, il y avait plusieurs yeshivot en Babel, hein, Soura, Pumbedita, je ne sais pas si vous connaissez les noms, Nerder, etc. Tout ça, c'est des grands centres d'études babyloniens. Et donc, à chaque fois, il y avait un roche yeshiva et qui validait, entre guillemets, le Resh Galouta. Et donc cette institution, elle s'est déroulée au début, au début de l'exil. En fait, elle a duré pendant tout le temps de l'exil, les 70 ans d'exil, mais elle s'est perpétuée bien après, puisqu'elle s'est perpétuée pendant le deuxième temple. Donc ça a duré ça jusqu'à 70, hein, en fait. Et ça a même continué après, une fois que les Bénisraël étaient en exil de leur terre, et qu'ils ont émigré un peu partout, il y a eu cette institution du Resh Galouta qui a continué à exister. Et ça s'est perpétué. Il y a eu donc jusqu'à l'époque des musulmans. Alors là, il y a eu un changement en termes de structure de cette institution-là. Et après, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais en gros, ça s'est arrêté vers l'an 1000. Donc ça a duré, suivant les datations, entre 1000 ans et 1500 ans à peu près, quoi. Donc c'est une énorme période. Alors évidemment, on n'a pas des traces écrites de tout ça, hein. Les historiens, ils ont des traces écrites de cette notion-là seulement à partir du deuxième siècle avant l'ère chrétienne. Et donc avant, on a des textes juifs qui en parlent, mais assez succinctement. Quoi qu'il en soit, dans la Gemara, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Alors pourquoi on en parle beaucoup ? Parce qu'en fait, le Resh Galouta, généralement, il était en interaction avec les autorités. Alors il était un peu moins religieux, pas forcément aussi religieux que ce que les Chachamim auraient voulu. Et donc, des fois, il y avait des petits conflits. Mais globalement, il était dans la Torah, les mitzvot, etc. Et donc, il y avait des aménagements spécifiques à sa fonction. Et en fait, ici, ce que je voudrais étudier, c'est une Mara dans Sanhedrin qui parle de la relation du Resh Galouta à la question des juges, et donc la nomination des juges. Alors, je ne vais pas faire plus de détails que ça, hein, du point de vue historique. Est-ce que vous arrivez juste à cibler un petit peu, voir un petit peu si on voudrait mettre en parallèle, mais c'est un parallèle un peu lointain, juste pour se donner un peu l'idée, ça ressemble un petit peu à ce qui se passerait avec Napoléon, qui rétablirait le Sanhédrin, mais dans des fonctions politiques et pas uniquement dans des fonctions religieuses, quoi. Voilà, ce serait un petit peu ça l'idée. Donc, les Chachamim, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette institution, et ce que je vais essayer de montrer ici, c'est que cette institution, ils l'ont pas remodelée, mais, si vous voulez, ils lui ont donné une formalisation halakhique, en fait, et qui a dépassé simplement le cadre qui était donné par le roi babylonien. Donc c'est un petit peu ça. Alors je suis bien conscient que ma vision, c'est une vision purement talmudique de la question. Hein, s'il y a des gens qui font de l'histoire, etc., peut-être qu'ils me diront tout à fait autre chose de cette institution. Peut-être que dans les textes, ça dit tout à fait autre chose. C'est pas mon point de vue. Hein. J'admets complètement mon ornière, si vous voulez. Et en tout cas, je vais faire d'Agmara avec vous. On va faire dans ce cadre-là. D'accord. Ça ne veut pas dire que les autres approches, elles m'intéressent pas. Mais disons, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne vais pas en parler. Alors, donc, je vous propose d'étudier Gemara dans Sanhedrin, Sanhedrin 5a. Donc, on est dans pour situer le contexte, hein, on est dans la question du Sanhedrin, et la Gemara essaye à ce moment-là de voir sous quelles conditions on peut juger de façon autonome, c'est-à-dire un juge peut juger, ou il faut trois juges, bon, plusieurs choses, quels sont les critères pour juger, quels sont le type de connaissances qu'il faut pour juger. Et donc à partir de ça, la Gemara, elle continue, elle dit Tashma, donc c'est vraiment, je le coupe en milieu, Tashma, Demarzutra, Brederav Nachman, Dandina, Veta. Donc on en a un enseignement. Marzutra, fils de Rav Nachman, il a fait un jugement, donc on est à Babel. Veta, il s'est trompé. Okay. Il s'est trompé sur le jugement. Alors, quelle est la nature de l'erreur qu'il a pu avoir? La Gemara, elle en discute un petit peu. Il y a plusieurs types d'erreurs. Il y a ce qu'on appelle Tabidvar Mishnah. Tabidvar Mishnah, ça veut dire quelqu'un qui vient et qui connaît pas la loi. Il connaît pas un din qui est écrit net dans la Mishnah. Voilà, il y a pas de problème sur ce din là. Il le connaît pas. Alors là, son din, on n'en parle même pas. C'est pas intéressant. C'est pas un jugement. Il y a un autre type de jugement, ça s'appelle Tabishikuladat. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de quelque chose qui n'est pas forcément écrit dans la Mishnah ou qui n'est pas très très sûr, dans lequel il y a des discussions. Shikuladat, il y a donc Shikuladat, ça vient d'une évaluation, donc il s'est trompé sur une évaluation. Donc il y a eu des discussions, il y a, on va dire, une jurisprudence qui s'est imposée globalement en Israël sur une situation, et une fois que cette jurisprudence elle s'est imposée, donc chaque juge est censé suivre la jurisprudence en question. Sauf que lui, il n'en était pas au courant ou il l'admettait pas. Donc ça s'appelle, c'est un cas d'erreur. Et donc, il s'est trompé. Et il n'a pas pris connaissance de cette jurisprudence ou il n'a pas appliqué correctement. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il en est pour le jugement en question? Le jugement est valable dans la mesure où le jugement a eu lieu en bonne et due forme. Mais comme il y a ce qu'on appelle tab et shikuladat, peut-être qu'il faudra rembourser s'il y a eu erreur. Alors, on parle essentiellement d'aspects financiers ici. Hein. On va pas aller tellement plus loin. C'est surtout cet aspect-là qui est jugé ici. Alors, donc, il est venu, donc, ce Rav-là devant Rav Yosef. Ata l'ekame de Rav Yosef. Il est venu devant Rav Yosef. Il est venu devant Rav Yosef. Amarlo, et il lui a répondu, donc, Rav Yosef. Im kiblur alayu lotishlam ve'ilo zezil shalim. Il dit, bah, de deux choses. Une, soit les témoins, les personnes qui sont venues se faire juger devant toi, t'ont accepté comme juge, sous-entendu, ont été d'accord d'être jugés par toi, même si tu fais une erreur. À ce moment-là, l'otishlam, tu ne payeras pas. Veilo, zilchlim. Mais si c'est le cas contraire, à ce moment-là, tu payeras. Donc ça veut dire que ici, il lui dit, si tu as fait une erreur, bah après, donc, déjà on voit que le juge est responsable financièrement de son acte ici, s'il n'a pas été explicitement accepté en tant que juge et ils ont accepté la possibilité d'erreur. Si la possibilité d'erreur a été acceptée par les justiciables, à ce moment-là, il ne payera pas. Mais si c'est dans le cas contraire, il payera. Mais là, Zéphine, Shmamina. Alors, qu'est-ce que Shmamina? Kilon akit reshuta dine dina. Shmamina. Donc, de là, on apprend que même s'il n'a pas reçu l'autorisation, din et dina, son din en est et le bon. D'accord, Shmamina, on apprend ça de là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le din est valable, on ne revient pas sur le din, on ne refait pas, mais il paye l'erreur qu'il a commise. Alors, donc ça c'est juste le contexte, hein, ce que vous voulez. Amar Rav il a dit, Ayman debae le midan dina. Si quelqu'un il veut faire un jugement, donc il veut s'ériger en juge, veita mibae le miftere. L'ishkol rishuta miberash galuta. Et si il veut ne pas payer en cas d'erreur, il faut qu'il demande l'autorisation au resh galuta, donc à cet exilarque. Donc si quelqu'un veut ne pas être responsable financièrement de son jugement, il faut qu'il demande l'autorisation au resh galuta. Vechen amar Shmuel, et ainsi Shmuel a dit, l'ishkol rishuta miberash galuta. Donc Shmuel a dit la même chose, il a dit donc qu'il demande l'autorisation au resh galuta. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que quand quelqu'un, un juge, il veut ne pas être responsable financièrement devant les personnes qui jugent, il faut qu'il demande l'autorisation au resh galuta. Donc, il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne, ce système-là. En quoi le fait de demander l'autorisation au resh galuta, de juger, le fait qu'il est pas, il devra pas payer s'il se trompe. Alors Rashi, je vous ai mis Rashi en parallèle en bas. J'ai pas mis tous les Rashi sur la Gemara, j'en ai mis juste quelques-uns, enfin ceux qui me paraissent importants. Donc l'ishkol reshuta, qu'est-ce que ça veut dire l'ishkol reshuta? Donc qu'il demande le reshut, l'autorisation de juger. Des kevan, des birshut nachat le meshalem. Donc puisque il a jugé avec autorisation, il payera pas. On comprend. Enfin, Rashi prend une option. Il dit que à partir du moment où on a eu l'autorisation du resh galuta, on ne payera pas. Donc c'est vraiment, on se demande pourquoi. On peut se demander pourquoi. Pourquoi le fait de prendre l'autorisation du resh galuta, ça implique qu'on ne devra pas payer. On va y répondre. Alors jusqu'à présent, c'est bon pour tout le monde à peu près. Ok. Donc Vechen Amar Shmuel. Donc pardon. La Gemara elle demande Pshita me'acha le'acha ou me'atam le'atam. Donc Acha, c'est Babel, Atam, c'est Israël. Donc, Pshita, c'est évident ce que tu viens de dire. Si le juge, il a été nommé en Babel et qu'il juge en Babel. Ou mais Atam, les Atam. Et s'il a été nommé en Israël, qu'il juge en Babel, en Israël. Alors, en Israël, il y a un autre système, c'est le système du Nassi. Il y a donc un Nassi, c'est un peu l'équivalent du résultat, mais enfin bon, la situation est très différente. Bon, on va pas trop parler du Nassi, mais s'il a reçu l'autorisation du Nassi, alors il peut juger en Israël et il ne sera pas responsable financièrement devant en cas d'erreur. Donc ça, c'est pas un problème. Ça veut dire que c'est évident qu'à partir du moment où quelqu'un il a reçu l'autorisation, bah, il juge, il ne paye pas. Ok. Umeachal et Atam, Namé. Mané. Donc, et qu'est-ce qu'il en est? Alors maintenant, la Gemara, elle va commencer à se poser des questions un peu plus tortueuses, on va dire. Mais Achal et Atam, si quelqu'un, il a été nommé en Babel, et donc, comme ça arrivait souvent, il va en Israël et il va vouloir juger des cas en Israël. Est-ce que l'autorisation du Resh Galuta, qui est donc est donné en Babel et qui a comme circonscription Babel, est-ce que est-ce qu'il peut maintenant aller en Israël juger? Alors on se dit simplement naïvement, on se dit bah non, puisque finalement il a été autorisé que en Babel, donc il n'y a pas de raison qu'il ait une quelconque légitimité de juger, d'être juge en Israël. Pourtant la Gemara elle demande la question. Donc déjà, c'est déjà interrogeant. Comment se met-il que la Gemara, elle se pose cette question? A priori, un type qui est nommé juge en France, il ne va pas aller en Suisse ou en Allemagne pour juger, même s'il parle allemand. D'accord. Donc ça s'arrête exactement là ou au périmètre de l'endroit. Donc comment se fait-il que la Gemara, elle pense que ce serait possible que oui. Donc elle va aller un peu plus loin. Donc il dit « Umeacha le'atam ». Donc qu'est-ce qu'il en est quand quelqu'un a été nommé juge en Babel et qui veut juger en Israël? Mahané, Agmara, elle dit tout de suite, ça marche. Ça veut dire qu'il a le droit de juger, non seulement il a le droit de juger en Israël, mais en plus qu'il ne sera pas responsable financièrement devant ses justiciables. Donc il pourra juger et s'il se trompe, il se trompe et il ne payera pas. Donc, Omer Hal et Atam Mahane. Alors, la Gemara, elle va. Bon, alors, je ne sais pas si tout le monde. Enfin. Bon, la Gemara, elle va à sa façon répondre ici. Alors, Mahane. Deacha, Shevet, Veatam, Mechokek. Ah, il y a un mot qui a sauté. Bon, c'est pas grave. Il y a un mot qui a sauté ici, hein, Veatam, Mechokek. Donc, Deacha, Shevet, parce que ici. Ça s'appelle, entre guillemets, Shevet, Veatam, Mechokek, ben vous le rajouterez, Mechokek, ça s'appelle Mechokek. Alors, on va voir un petit peu ce que signifie chacun des deux mots, puisque la Gemara, elle va jouer sur ces termes-là. Donc, ici, en Babel, ça s'appelle Shevet, là-bas, ça s'appelle Mechokek. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Shevet ? Shevet, c'est une tribu, d'accord ? C'est aussi le bâton. Donc, c'est deux connotations qui sont très différentes. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, la Gemara, elle dit, d'abord, rien qu'au niveau des mots, qu'en Babel, la justice, c'est de l'ordre du Shevet. Veatam, et là-bas, en Israël, la justice, c'est de l'ordre du Mechokek. Mechokek, ça veut dire du législatif. C'est ce Mechokek, c'est celui qui... Oui, de la trace, oui, c'est celui qui écrit la loi, quoi, en fait. Donc, Veatam, en Israël, c'est le Mechokek. Ça peut. J'ai proposé
c'est,
l'écriture.
C'est un adjectif, on va dire, entre guillemets, un adjectif de la justice, Shevet et Mechokek ?
Non. Alors, Mechokek, manifestement, oui. Mais Shevet, pas forcément. Moi, j'aurais pas dit que forcément le mot Shevet, il est lié à la justice. Hein. Pas forcément. L'Agma, c'est pour l'instant, elle a deux qualificatifs. Je vais laisser ouvert, tu vois. Je vais pas commencer à trop charger. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que il y a un écart entre deux façons de juger. Une qui s'appellerait du type Shevet et d'autres qui s'appellent Mechokek. Bon, alors on peut le dire comme ça. Hein. Moi, ce que je comprends, disons, dans un premier jet, c'est de dire que Mechokek, c'est plutôt du législatif, tandis que Shevet, ça sera plutôt, entre guillemets, du punitif. Mais punitif, ça ne veut pas dire grand-chose en termes de justice, quoi. Donc on est un peu coincé. D'accord. Alors, donc là, la Gemara, elle donne deux termes, en fait, et ces deux termes, elle va les déployer un petit peu. Kedetania, comme on a enseigné donc dans un autre enseignement. Donc, c'est cet enseignement, en fait, il est issu de l'explication d'un passouk qui est dans Bereshit. Donc, à la fin de Bereshit, donc Yaakov, il bénit ses enfants. Et une des bénédictions qu'il donne, donc, en l'occurrence à Yehuda, c'est la suivante. « Lo yasur shevet mi Yehuda ve mechokek megem uben raglav ». Donc, le verset, il dit comme ça. Hein, c'est un verset dans Bereshit 49-10. Donc, « Lo yasur shevet mi Yehuda », le bâton, le sceptre, donc il faudra dire quelque chose comme ça, le sceptre ne quittera pas la tribu de Yehuda, ou Mechokek, et la législation d'entre ses jambes. Alors, ça c'est un verset. C'est un verset qui est un peu qui peut être une prophétie, qui peut être une bracha. C'est un verset qui dit pas grand-chose par rapport à notre sujet, qui est même un peu hors sujet, quoi. Ça veut dire que on a ici deux termes, effectivement, on a le terme Shevet, on a le terme Mechokek, mais enfin, de là à dire que ça veut dire quelque chose pour Babel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera 1500 ans plus tard, ça va être difficile, quoi. Ça va être difficile, même si on envisage que c'est une prophétie et pas une bracha, dans ce verset-là, il n'y a pas grand rapport avec l'histoire de Babel. Donc, la Gemara, pourtant, elle va ramener un texte qui explicitement met ça en rapport. Alors, Lo Yasur Shevet Miyuda. Donc, la Gemara, elle ramène la première partie du verset. Donc, le sceptre, on va traduire ça comme ça, le sceptre ne quittera pas la tribu de Yehuda. La Gemara, elle traduit, enfin, ce texte traduit, Elu Rache Galouyot Shebe Babel. Ce sont les exilarques qui sont à Babel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, une des concrétisations du fait que le sceptre de Yehuda ne le quittera pas, c'est les rachés galouyot, c'est les exilars qui sont en Babel. Donc le sceptre ici est associé au Rech Galouta. Le sceptre ici, donc c'est une forme de souveraineté, quoi, est associé à Yehuda et ici au Rech Galouta. Pourquoi ? chez Rodin est Israël Bachevet, Bechevet, parce que il, alors Rodin, c'est Rodin, alors ça peut vouloir plusieurs choses, mais disons c'est qui ont une maîtrise, une, qui surplombe en fait, c'est Rodé, c'est surplombe Israël Bechevet, donc par le sceptre. Donc c'est une façon de dire ici qu'il y a une forme de souveraineté qui s'applique sur les gens qui sont à Babel à partir du Reich Galuta. Ça, c'est première partie du verset interprété par la Gemara. « Umechokek mi ben raglav » et donc la législation, le législateur d'entre ses jambes. Qu'est-ce que c'est ?« Elou b'nebanav shelilel shemelamdim Torah berabim » Alors, qu'est-ce que ça désigne ? C'est les petits-enfants de Hillel qui enseignent la Torah en public, donc en Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Donc, on associe au Reich Galuta la notion de Chevet, et on associe à la justice qui se passe, qui se déroule en Israël, à cette notion de Mechokek. Et ce qui se passe en Israël, c'est que la justice, elle ne se fait pas sous l'aune du sceptre, on va dire, mais elle se fait plutôt par l'enseignement. Alors, est-ce que l'enseignement, c'est une forme de justice ? Ça peut, mais enfin, on est quand même loin. C'est pas la justice, c'est pas de l'enseignement. Enseignateur, c'est bien. Est-ce que ça fait de la justice ? Non. Quand on va au tribunal, on nous apprend peut-être la Torah, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on rend la justice. Alors, c'est des questions. Hein, je vais pas répondre à tout. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ici, enfin, ce que la Gemara veut dire, c'est qu'il y a deux dimensions. Donc, il y a une première dimension qui s'appelle Chevet, une dimension qui est Mechokek. Cette dimension de Chevet est associée à l'exilarque. L'autre est associée. La notion de Mechokek est associée à ce qui se passe en Israël et qu'il y aurait une supériorité donc du Chevet sur le Mechokek. Et donc, par rapport à ça, la Gemara, elle conclut, elle dit donc finalement, si quelqu'un il a été nommé en Babel, il peut juger en Israël parce que il a, alors parce que lui, il est de l'ordre du Chevet, alors qu'en Israël, on aurait une justice qui est de l'ordre du Mechokek et celui qui applique une justice de l'ordre du Chevet, il peut dépasser la frontière de Babel. Voilà. C'est ce que la Gemara, elle dit. C'est ce que la Gemara, elle dit. Et il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se trame là-dedans. Quand on ne comprend pas bien, on comprend pas du tout l'enjeu, dans la mesure surtout où le verset qu'on rapporte ici, on ne voit pas en quoi il répond véritablement à ce qui se passe. Est-ce que le verset, véritablement, il répond, ou est-ce que le verset, il se fait l'écho de ce qui se dit de cette suprématie ou de cette supériorité du mode de justice qui se produit à Babel par rapport au mode de justice qui se produit en Israël. Je pense qu'il faut plutôt dire dans le deuxième sens. On va voir au fur et à mesure. Mais disons que si on veut chercher dans le verset lui-même quelque chose, on va avoir du mal parce que je vous le dis, mais on va le voir ensuite après. On peut très bien inverser les rôles. Il n'y a rien. Le mot Chevet, on l'associe au galout de Babel, enfin à l'exilarque, parce qu'il a une forme de, coercition. Très bien. Je pense pas qu'en Israël ils avaient aucune forme de coercition non plus. Sinon c'est pas de la justice quoi. Il y a forcément un moment ou l'autre de la coercition. Qu'est-ce qui fait que la Gemara elle associe le Chevet de Yehuda à Rachel Galut de Babel et le fait que la Gemara elle associe le Mechokek à donc, Israël. Alors Rashi, il va rentrer un petit peu plus dans le détail, même beaucoup plus, et on va travailler à partir de Rashi. Donc il est juste en dessous, Chevet. La Shon Srara, donc c'est quoi Chevet ? C'est un mode de gouvernance, enfin pas de gouvernance, on peut dire de gouvernance, mais je pense que c'est plus de souveraineté. C'est-à-dire qu'en fait, la différence, c'est qu'il ne s'agit pas juste de gouverner, mais le souverain, c'est normalement quelqu'un qui a... Il n'y a rien au-dessus de lui, quoi. Donc, le dernier maillon de la justice, c'est le roi, le roi de Babel, qui a donné son autorisation au Reich Galuta pour nommer les juges. Et les juges, bon, ben, ils se réclament de cette autorisation. Alors, on y va, on va lire Rashi. Donc, il avance pas mal de pions ici. Veyesh laim reshut et les différents juges qui ont été nommés à Babel, ils ont eu la possibilité, ils ont donc l'autorisation de juger, c'est-à-dire les afkir, pour rendre efkir, c'est-à-dire d'exproprier quelqu'un, s'approprier, c'est-à-dire de lui prendre sa propriété, c'est-à-dire en fait de lui prendre des biens. Des efker bedin efker, parce que on a un principe dans le Talmud qui dit efker bedin efker, c'est-à-dire que lorsque un tribunal a exproprié quelqu'un, eh ben ça fonctionne. Un tribunal a la capacité d'exproprier. Dirtiv. Et alors cette capacité-là, elle est apprise d'un pasouk. Alors ici qu'on apprend, il y a plusieurs origines de cette autorisation-là. Donc il y a un pasouk dans Ezra. Donc Ezra, c'est quand Ezra, ça fait partie en fait des Ketuvim. Hein, c'est le moment où ça retourne, où les gens y retournent en Israël. Donc après le premier exil. Donc on apprend là-bas Vekol. Alors il ramène le verset Vekol Asher Lo Yavo, etc. Mais il va mode la charaba. Donc le contexte en fait là-bas, c'est quoi? C'est Ezra, il convoque tous les gens qui sont en Israël et il dit quiconque ne viendra pas au rassemblement que je fais ici, eh ben ces biens lui seront expropriés. Voilà, ça c'est Ezra. Et donc la Gemara, elle a appris dans un autre texte, hein, quand je n'ai pas dit ici, elle apprend ici cette capacité du Bedin, donc du tribunal, d'expropriation sur les biens de quelqu'un. Donc comment Rashi interprète la chose, comment il comprend Chevet? Chevet, pour lui, c'est donc une souveraineté, mais une souveraineté qui va jusqu'à l'expropriation des personnes. Donc cette expropriation-là va lui permettre à Rashi donc, de dire des mots qui ne sont pas du tout écrits dans la Gemara, mais on voit bien ici qu'il ne va pas juste s'appuyer sur le verset pour pouvoir justifier que le Beit Din de Babel a une supériorité à celui d'Israël. Il dit parce que Veyesh Lahem Reshut Leafkir, parce que le tribunal en Babel, il a la possibilité donc d'exproprier quelqu'un. D'Efkir Bedin Efkir. Et donc, à partir de ça, donc le mécanisme est le suivant, c'est un mécanisme juridique. À partir du moment où quelqu'un, il a la possibilité d'exproprier quelqu'un d'autre, donc si maintenant le tribunal, il a fait une erreur, et donc il a donné l'argent de A à B alors qu'il n'aurait pas dû le faire. À ce moment-là, ne serait-ce que parce qu'il a ce principe de Efker Bedin Efker, donc du coup, cet argent qui a été donné par erreur, elle reste. Il ne va pas être lui-même, le juge, responsable financièrement devant ses justiciables et il ne devra pas payer. Parce que même si cet argent a été donné par erreur, c'est FK va dire FK. Donc on s'entend, je rappelle la configuration, il ne s'agit pas d'une erreur flagrante, d'une méconnaissance de la loi. Non, il s'agit en fait plutôt d'une erreur, on va dire, d'interprétation, ou en tout cas ça s'oppose pas ouvertement à une loi qui est écrite dans une Mishnah, dans une Maréta, dont le texte est connu de tous. Mais si par contre c'est une erreur de l'ordre de l'interprétation, c'est-à-dire que la loi, elle a un niveau de lecture, par exemple il y a un nouveau cas qui s'est présenté devant nous, il faut interpréter le nouveau cas à l'aune de ce qu'on connaît, alors à ce moment-là, on a fait une erreur, parce que de par ailleurs l'interprétation a été fixée d'une certaine façon et que le juge n'a pas suivi l'interprétation officielle, à ce moment-là, eh ben, il n'est pas responsable financièrement devant de son erreur. Quoi. Et ça, c'est le principe de Efker, Bedin, Efker. Il n'a pas fait n'importe quoi, en gros. Il n'a pas fait n'importe quoi. Et donc, son jugement est valable. Et il n'est pas responsable financièrement devant ses justiciables. Donc, ça, c'est le principe de base. C'est le principe de la justice. Enfin, c'est ce qui fait que le juge qui juge en Babel, il n'est pas responsable financièrement de son geste. Voilà, ça c'est ce que Rashi il dit. Ok, ça c'est ce que Rashi dit. Alors, donc on voit ici clairement que Rashi il va pas du tout se contenter de dire j'ai inversé. Et donc la Torah m'a dit que les Rashi Galgot de Babel, les exilards, qu'ils ont le droit de juger. Il ne se contente pas de ça. Vous voyez, il rajoute des mots, il explique, il remet une couche. En fait, il mobilise, si vous voulez, un principe général de la Gemara. Et c'est à partir de ce principe général de la Gemara qu'il va essayer de comprendre la chose. Donc, vous voyez bien comment le verset ne le verrouille pas. Le verset, il lui permet de dire des choses. Mais enfin, ce n'est pas écrit dans la Gemara ce que dit Rashi. Et c'est Rashi qui rajoute en disant que, on dirait presque que le verset ne l'a pas du tout convaincu. D'accord ? Le verset ne lui a rien dit. Ouais. Peut-être, ouais.
Il ne pourrait pas y avoir de justice coercitive, ça passe forcément par le fait de déposséder les gens.
Oui, alors, donc ça veut dire qu'en fait, ça, t'as bien remarqué qu'il y a deux tendants de la Gemara. La Gemara, dans un premier temps, elle dit, donc, Atam Shevet, Atam Mechokek, d'accord. Donc ça veut dire que, ensuite, donc la Gemara, elle annonce, si tu veux, une première phrase, et ensuite, après, elle le justifie dans un seul. Elle le dit dans un second temps. Le rapport entre les deux morceaux de phrase, ce n'est pas forcément un rapport de conséquence. D'accord ? Ça peut être une première façon de dire les choses, et je pense que c'est comme ça que Rashi il a dit les choses. Il a dit, dans un premier temps, voilà, ça c'est le chevek, ça c'est Mechokek, façon de parler. Et ensuite, dans un second temps, il a dit, tiens, je te ramène un second texte, si tu veux, où on voit ça aussi.
Une source,
oui. Mais est-ce que c'est une. Voilà. Mais où on voit ça aussi, moi, ce que je comprends. C'est ça. Parce que sinon, Rashi, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'en rajouter une couche en plus, tu vois ? C'est un peu ça le. Oui. C'est ça que ça veut dire. Sur la capacité d'expropriation. Ouais. Ok. Alors, donc, pour l'instant, on n'est pas plus avancé sur notre problème en réalité, parce que notre problème, c'était la capacité de juger en Israël alors qu'on a été nommé en Babel. La capacité d'expropriation, s'arrête aux portes de Babel. Elle ne va pas en Israël, a priori. D'accord ? Donc, cette capacité-là, elle s'arrête là, puisqu'elle est toujours liée au Resh Galuta. Elle est toujours liée au roi, comme on le voit tout de suite. Et donc, on ne voit pas pourquoi, à ce moment-là, on peut aller juger en Israël. Donc, qu'est-ce qui fait que la Gemara, elle le dit très facilement et elle se contente de cette justification-là ? D'accord ? Alors, ça, c'est déjà une difficulté. Rashi, il rentre un peu dans le sujet, mais il ne répond pas à ça véritablement. C'est assez intriguant, parce que comment se fait-il que Rashi n'essaye pas d'aller plus loin sur la question, quoi. Il se dit pas, mais alors en Israël, alors que c'est la Gemara qui le sollicite, il lui dit, bah, à quoi tu sers Rashi ici en l'occurrence, il faut que tu dises le truc, quoi. Donc, c'est, voilà. Donc là, Rashi, silence. Enfin, moi, je n'ai pas pu le lire dans d'autres Rashi. Je ne les ai pas tous mis, hein, mais voilà, je pense que c'est ceux qui comptent ici. On continue la Gemara. Bon, on va essayer d'éclairer un peu au fur et à mesure. Hein. Donc, alors, la Gemara, donc, elle est satisfaite de sa réponse. Nous, pas encore tout à fait. Mais en tout cas, elle continue sa démarche. Umeatam leacha. Donc, et elle dit, et qu'est-ce qu'il en est si quelqu'un qui a été nommé en Israël par le Nassi, est-ce qu'il a la possibilité de venir juger en Babel ? Donc la réciproque en fait, ou l'inverse, je ne sais pas comment on peut dire. Donc le cas contraire, à savoir que quelqu'un qui a été nommé en Israël, il peut venir juger en Babel ou pas. Et est-ce qu'il peut venir ? Et puis, s'il a la possibilité, est-ce qu'il serait responsable financièrement ? On voit ici que les deux thèmes sont liés, ce qui n'était pas du tout évident. Rashi le dit, voilà, est-ce qu'on peut délier les deux thèmes ? Je pense que oui. Mais en tout cas, Rashi nous dit les deux choses en même temps. Et la possibilité de juger, elle revient à dire en fait qu'on n'est pas responsable financièrement. Okay. Donc, Me'atam Le'acha, donc qu'est-ce qu'il en est donc pour juger en Babel lorsque on a été nommé en Israël ? Maï, Tashma, on va ramener un enseignement. Des Rabba ben Rafrana d'Andina. Veta, donc Rabba ben Rafrana, il a jugé et il s'est trompé. Atal et Kamé de Rabbi Chia, il est venu devant Rabbi Chia à Marlé. Il lui a dit, Ikiblouch alayu lotishlam veilo zilchalim. Il lui dit, si ils t'ont accepté comme juge, pas comme arbitre, hein, vraiment comme juge, hein, c'est-à-dire comme quelqu'un qui doit exercer le jugement selon la Torah, quoi. Ikiblucha alayu, lotishlam. S'ils t'ont reçu en tant que tel, donc ça veut dire qu'ils ont accepté ton jugement, ils t'ont. À ce moment-là, tu ne payeras pas. Pas accepté ton jugement. S'ils t'ont mandaté, s'ils sont venus te chercher, lotishlam, tu ne payeras pas. Veilo, zilchim. Mais si ce n'est pas le cas, donc c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, tu t'es imposé, alors je ne sais pas exactement comment il s'est imposé, lotishlam. Veilo, zil shalim, et si ce n'est pas le cas, donc à ce moment-là, tu rembourseras. Vea Rabba Barrafrana Reshuta Avanakit. Or, Rabba Barrafrana avait l'autorisation du Nassi en Israël pour juger. Shmamina, Meatam Leacha, Lomane. De là, on apprend que si quelqu'un il a été nommé en Israël pour juger, il ne pourra pas. et qu'il vient juger en Babel, l'omane, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'en fait, il sera responsable financièrement devant ses justiciables et il devra payer s'il s'est trompé. Shmamina, la Gemara, elle s'arrête là et elle dit, voilà, ok, j'ai trouvé mon cas. Donc vous voyez, dans ce deuxième exemple, on ne rappelle pas un texte ou quelque chose. C'est juste un cas où on voit que ça s'est passé comme ça. Et la Gemara, elle se suffit de ça comme élément de réponse, ce qui est assez étonnant. Bon, c'est un cas, ok, mais comment se fait-il que ça suffise comme élément de réponse? Il faut justifier. On ne peut pas dire juste que la Gemara, elle a trouvé un cas. Peut-être oui, peut-être non. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Elle ne va pas plus loin. Voilà le texte de base, en fait. Voilà, ça c'est le texte de base, et avec toutes les questions qu'on a posées. Donc j'ai posé quand même pas mal de questions, certaines un peu répondues, d'autres pas tout à fait. En tout cas, on voit ici clairement que quelqu'un qui aurait été nommé en Babel et qui va en Israël, il a tout à fait la capacité de juger et en plus de ne pas être responsable financièrement. Quelqu'un qui a été nommé en Israël et qui va juger en Babel, il a peut-être la capacité de juger, mais en tout cas, il sera responsable financièrement. Et donc, on voit ici vraiment un déséquilibre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? La différence, c'est que pour Israël, c'est le Nassi qui va nommer le juge, tandis qu'en Israël, en Babel, ça va être le Resh Galuta qui va nommer le juge. Donc, et on voit clairement ici aussi une première distinction. Une capacité coercitive du juge nommé en Babel que n'aurait pas, ou en tout cas, on ne sait pas exactement, cette capacité-là de ce qui se passe en Israël. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que la Gemara, quand elle a posé la première pierre de son raisonnement, à savoir qu'elle a donné la possibilité, elle a dit que si on est nommé en Babel, on peut juger en Israël, elle ne se contente pas de dire « bon, c'est bon, alors forcément, dans l'autre sens, ça ne marcherait pas ». Ce n'est pas un déséquilibre foncier, quoi. C'est pas un déséquilibre fondamental. Il y a un déséquilibre, et la Gemara, elle continue quand même, et elle dit « mais et qu'est-ce qu'il en est s'il est l'inverse ?» Donc, sous-entendu, on n'a pas fini de résoudre complètement la question une fois qu'on a dit la première partie du raisonnement, à savoir, dès lors qu'on a, nous, on se sera attendu à ce qu'on a posé un déséquilibre entre Babel et Israël, ce déséquilibre, ça y est, c'est fait. Or, ce n'est pas ça ce qui se passe. La Gemara, dans un second temps, elle dit, mais qu'est-ce qu'il en est à l'inverse? Donc, ça veut dire qu'on dirait qu'il y a des éléments qui plaident en faveur d'une suprématie de Babel, mais il y a aussi d'autres éléments qui plaideraient en faveur d'une suprématie d'Israël, suprématie relative, bien sûr, puisque finalement, ce qui se passe, c'est que Babel peut, un juge babylonien peut juger en Israël.
Est-ce que ça peut être une illustration, maintenant ? C'est-à-dire qu'avant, elle a posé le principe des catégories, et après, elle met ça en scène, quoi. Comment ça se manifeste ?
Bon, pourquoi tu parlerais ça ? Quand tu as dit « Me'atam le'acha », c'est une vraie question.
En fait, au début, c'est théorique, c'est-à-dire que Shevet et Mechoket, ça fait quelque chose à peu près vague. Ensuite, la Gemara expose ce que ça implique.
Regarde le début, comment la Gemara, elle pose la question. Elle dit « Me'atam le'atam, ma'ane me'acha le'atam ». Ensuite, la Gemara, elle pose la question, si tu veux. Elle dit « Me'atam le'acha », c'est donc deux éléments, enfin, c'est deux temps du raisonnement. Il y a un premier temps, puis un second temps. Elle ne se contente pas de dire donc... Il y a deux questions. Une première question et une seconde question. Pardon ? Vas-y. Vas-y.
En l'occurrence, notre kek, qui n'est pas reproduit ici, Rachid traduit « Shrava mon étet ».
Ouais.
Chébet, oui.
J'entends, j'entends.
Mais Rokek, c'est un pouvoir plus faible.
Je suis d'accord avec toi.
Tu vois que le pouvoir plus faible qu'il a acquis en Israël ne suffit pas pour juger à Babel.
Oui, je suis d'accord. Est-ce que, moi, ce que j'ai compris dans ce Rashi, c'est qu'en fait, il anticipe un peu la Gemara. Mais ce n'était pas obligé de le dire dans la Gemara comme ça. Il anticipe un peu la Gemara.
Okay.
Parce que sinon, il n'y a pas de question. Sinon, il n'y a pas de question. Matam le'ar. Rashi, c'est ça que j'ai compris. Il anticipe un peu la Gemara.
Peut-être.
D'accord. Voilà. Mais bon. Okay. Alors. Donc. Il va y avoir, donc on a posé pas mal de problèmes, je ne vais pas répondre à tout. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire une démarche de Segmara, c'est la démarche de Rabbeinu Tam. Et sa démarche, en fait, elle est présentée dans Tosfot, dans plusieurs Tosfot, dans deux Tosfot, qui se rejoignent et qui, en fait, vont nous permettre, dans leur comparaison, leur différence, de poser un peu mieux le problème. Alors, Le problème de Tosfot, ici, ça va être de comprendre le verset, quelle est sa pertinence, qu'est-ce qu'il rajoute, comment ça s'entend. On a posé la question dans le verset en disant, il n'y a pas marqué « Raché Galouya » dans le verset. C'est marqué « Lo Yassour Shevet Miyouda » ou « Mechokek Meben Raglav ». Donc, il n'y a pas marqué ni « Rosh Galout » ni « Nassi ». Donc, Tosfot va se poser la question. Bon, ok, tu me ramènes quand même un déséquilibre. Je veux bien admettre qu'il prend sa source ailleurs, mais enfin, qu'est-ce qu'il en est ? Comment je vais pouvoir le lire dans le verset ? Alors, c'est son problème. Ouais. Ouais, bien sûr, c'est fait pour.
J'insiste parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Et en fait, quand je revois, on peut tout à fait lire comme ça, sans dire que Rachid en pose la question.
Alors, je n'ai pas le raisonnement ici, hein, je vais.
Rachid, le raisonnement, c'est Mechokek, deux points, Shrava, Moïtet. Bon, Mechokek, deux points, qu'est-ce que c'est ? En fait, le Shrava, vous avez traduit pouvoir.
Ouais, vous vous
tête. Un pouvoir amoindri.
Amoindri.
Mais, et en fait, on n'est pas obligé de dire que. Quand Rachid dit ça, il anticipe la Gemara. Il se trouve que le pouvoir en Israël est amoindri, mais ça ne veut pas dire que le pouvoir minimal pour pouvoir juger à Babel, ce soit Shevet. Peut-être que, et c'est la question qu'on va poser la Gemara, quand elle dit, mais en Israël, il y a un pouvoir qui est amoindri par rapport à celui de Babel, mais peut-être que c'est un pouvoir qui est déjà au-dessus du seuil du minimum requis pour pouvoir juger les gens à Babel. Et donc, elle va poser la question.
Okay, j'entends, c'est intéressant dans les yeux. Okay.
Parce qu'on a compris comme ça, alors on peut poser la question. C'est-à-dire, parce qu'on sait qu'il y a un pouvoir plus faible en Israël, alors on peut poser la question, est-ce que ce pouvoir est suffisant ? Et sur ça, la Gemara a dit, je vais te montrer que non, par le cas d'école qui s'est produit.
D'accord, ok, voilà. J'entends. Ok, c'est tout à fait possible. Ok, je prends là, parce que je ne vois pas de position. Bon, voilà. Ok, alors, Tosfot, il va essayer donc de voir un petit peu comment s'articule le verset ici. Alors, Deacha Shevek Vata Mechokek. Alors, donc, c'est le Tosfot sur place. Mashma Deshevet Adif. Donc, comme tu viens de le dire, Mashma Deshevet Adif. Donc, ça sous-entend que la notion de Shevet, ça donne une supériorité. Vea Dehamar Veperek Makom Shenaagou. Or, on a trouvé un autre endroit, donc dans un perek, dans un autre morceau de Gemara, donc ici c'est le nom du perek, c'est Makom Shenaagou. Aval mi Babel Eretz Israël, Kevan Deanan Kaifinan Leu, Avinan Kavatayu. Alors c'est sur un autre sujet, bon, quel que soit le sujet en question, il dit, mais des fois on voit donc une expression de ce style-là, de Babel en Eretz Israël, puisque nous, donc les Babyloniens, leur sont soumis, Avdinan Kavatayou, nous faisons comme eux. Donc on voit ici un équilibre, un déséquilibre hein, dans l'autre sens, à savoir un déséquilibre en faveur des Israéliens. Et donc on voit ici qu'il y aurait une forme de soumission des Babyloniens aux Israéliens. Donc peu importe le cas ici, il y a plusieurs exemples comme ça. C'est pas si simple. Qu'il y ait un déséquilibre en faveur des Babyloniens, c'est pas si simple. On voit d'autres exemples où c'est pas le cas. Alors, et donc c'est là où il intervient Rabbeinu Tam. Il va essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Vemer Rabbeinu Tam. Dernier millet, quand est-ce qu'il y a ça ? Bemilta d'Issour Véter. Donc quand est-ce qu'il y a une supériorité en faveur des Israéliens ? Quant aux questions de Issour Véter. C'est quoi les questions de Issour Véter ? Bon, on va dire un petit peu mal, c'est les questions de religion, on va dire. À savoir quoi ? Est-ce que c'est cachère ? Est-ce que le mariage est valable ? Est-ce que le guet est valable ? Etc., etc. Donc ça, c'est la question de Issour Véter. Donc, ce qu'il dit, Rabbeinu Tam, c'est anémilé dans quelle situation, dans quel type de jugement la suprématie de il y a une suprématie israélienne par rapport à celle de Babel, c'est sur la question de Issour Véter. Des bnei Eretz Israël hakimé tfé. Tiens, les Israéliens sont plus intelligents, sont plus racham que les Babyloniens. Donc la Gemara elle le dit comme ça. Donc c'est pas la Gemara, ça c'est Tosfot qui le dit. Donc les bnei Israël, ils sont plus intelligents. Bon. Pourquoi ? Alors Gemara justifie à nouveau, enfin Tosfot plutôt Donc pourquoi ? Parce que Davira d'Israël, Markim. Alors Il paraît, je ne sais pas, en tout cas, il annonce cet argument, qui est un argument qui est dans la Gemara. De Avira, l'air d'Israël rend intelligent. Avira d'Israël, Markim. Ok ? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il paraît que c'est, voilà, c'est marqué dans la Gemara. L'air d'Israël rend plus intelligent. Donc, en l'occurrence, ça revient à dire qu'il y a une supériorité des Israéliens vis-à-vis des Babyloniens sur les sujets de Issour Véter. Kede Amar Afra, comme on le dit ici, Deikrou Mechokek. C'est ce qui est marqué dans le verset ici, à savoir, ça s'appelle Mechokek, c'est-à-dire les législateurs. Donc, pour la question de la loi, ils sont appelés Mechokek, ils ont donc une capacité législative supérieure, on va dire. Chez Melamdim Torah Berabim, parce qu'ils enseignent la Torah en public. Donc on voit ici que c'est assez intéressant de voir que cette capacité législative, c'est pas qu'ils restent dans leur cénacle en train de juger le cas entre gens de bonne compagnie, mais qu'ils sont capables d'affronter, si vous voulez, l'enseignement, et donc de donner un enseignement. Donc ça leur donne une capacité législative plus importante. C'est intéressant de remarquer ça. Bon, voilà. Aval. Oui, bien sûr.
Dans le cas de Sénédrin, dans notre cas-là, on est sur quel type de...
On est sur des dînes de... Donc, c'est ce qu'il va dire juste après. Juste la suite, il en parle. Aval, Lénia, Afkat, Mamon. Mais quant à la question de problèmes d'argent, de problèmes financiers, l'hypater, donc pour se rendre patour, c'est-à-dire pour ne pas être responsable financièrement vis-à-vis du jugement qu'on a mis, à ce moment-là, en Babel... Efker, Bedin, Efker, on va pouvoir dire Efker, Bedin, Efker, à savoir qu'il y a cette capacité d'expropriation qui est affirmée, assumée en Babel, qui semble en tout cas moins assumée en Israël, je ne sais pas exactement pourquoi. Adifé, Némabel. Donc c'est pour ça que les gens de Babel, ils sont supérieurs. Ils ont une préférence, il y a une préférence en leur faveur. Adifé, Ménavel, Déikrou, Chevet, parce qu'eux, ils sont appelés Chevet, Chérodim, Etam, Bamakel. Alors là, il le dit, donc ils ont Chérodim, alors à ce moment-là, on n'a pas tellement de choix, mais qui frappe les gens avec le bâton. Donc ce qu'on entend ici, c'est une capacité coercitive. Ok ? Donc, voilà. Donc ici, vous voyez, Tosfot, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, c'est pas les mêmes jugements. Quant aux questions d'argent, il y a une préférence de Babel, mais ce n'est pas une préférence essentielle ou métaphysique ou quoi que ce soit. C'est, en fait, ça provient strictement du fait qu'ils ont cette capacité de Efker, Bedin, Efker. Et ça, c'est précisément lié à la nature des jugements qu'ils émettent, à savoir que c'est des jugements relatifs à de l'argent. Mais par contre, sur les autres jugements... ils sont plus malins, les Israéliens sont plus malins, ils ont une expérience, enfin pas une expérience, mais en tout cas, se confrontant à l'enseignement, se confrontant non seulement aux yeshivot, mais aussi à la plèbe, on va dire, à tout le monde, alors à ce moment-là, ça leur donne une supériorité, et au contraire, ça leur donne une faculté supplémentaire de jugement des cas de Issour Véter. Donc Tosfot, vous voyez, il recontextualise chacune des deux gmarot. Les gmarot relatifs à la suprématie de Babel sont des gmarot qui sont relatives aux questions d'argent. Les gmarot qui sont relatives à la suprématie d'Israël, c'est des gmarot relatives à des questions de Issour Véter, donc de cas religieux, de guet, de mariage, de bassar de chalav, etc.
Est-ce qu'on peut pas avoir ici presque de critique, c'est presque ironie.
Ah oui,
j'ai l'impression que finalement, ils sont rachams, mais ils n'ont pas les moyens. Et leur manière de convaincre, de faire passer la loi, c'est qu'ils enseignent en public, etc. Donc la loi, elle passe par cette voie-là. Les autres, tout ce qu'ils savent faire, c'est taper. Quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, l'exilarque, son seul pouvoir, c'est de taper. Mais il ne convainc pas, il n'enseigne pas.
Oui, mais bien sûr.
Le rachams, c'est en
S. Non, mais non, c'est clair, je ne l'ai pas dit, mais oui, c'est ça que ça veut dire, bien sûr. Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est clair. Non, mais c'est étonnant de voir que on est dans la Gemara, dans le Talmud babylonien, tu vois. Donc on se serait dit, bon, on va l'ajouter un peu master, mais pas du tout. Pas du tout, il s'écrase un peu.
Je
ne
sais pas si la critique, elle n'est pas vis-à-vis des
Israéliens.
Des Israéliens.
Vas-y, écoute, juste écoute.
Non, mais dans ce sens-là, c'est-à-dire que, étant donné que, alors, que ce soit de facto ou de juridique, les Israéliens n'ont pas la possibilité de faire des alors du coup, ça les empêche
de pouvoir appliquer un jugement jusqu'au bout, au point de pouvoir exproprier quelqu'un, même quand le dit n'était pas de son côté. C'est ça, FK Badinevka. Et en ce sens, c'est un reproche pour les Israéliens. C'est-à-dire, vous n'avez pas mis en place les mesures exécutives nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout du jugement et prononcer FK Badinevka quand ça s'impose.
Ah oui, je suis d'accord, on va arriver à cette démarche-là. On va y arriver progressivement. Ça demande un peu d'élaboration. Mais c'est à peu près ce vers quoi je tourne, pas seulement, il y a plusieurs éléments. Alors, ce qui est intéressant après dans Tosfot, c'est qu'il aurait pu s'arrêter là, Tosfot. Et il se sent un petit peu. Je ne sais pas pour. Enfin, on va en discuter. Il dit autre chose après. Ve'ainu ta'ama, et la raison en est Mishum des roches gola mizecharim venasi sheberet Israël minekevot kedamar biyerushalmi. Donc Tosfot ramène un élément du Talmud de Jérusalem et il dit qu'en fait le roche gola, l'exilarque, il vient de la descendance masculine de David, alors que le nasi d'Eretz Israël, il vient de la descendance féminine de David. Donc, alors là, on est perdu, en fait. On est complètement perdu. Qu'est-ce que vient faire cette histoire dans la choucroute ? Alors, c'est quelque chose d'inovine. Normalement, il a fini sa démonstration. Et puis ensuite, on se demande, mais attends, le second masculin, féminin, je veux bien. On ne va pas commencer à dire une suprématie des hommes vis-à-vis des femmes. Quel rapport ? Ça ne veut rien dire. Et puis, comme argument juridique, ça ne vaut rien, quoi. Ça vaut rien comme argument juridique. Donc, qu'est-ce qui nous dit ? Alors déjà, on va dire du point de vue contexte. Donc, le Rosh Gola, ça vient de Yehoyachin, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est un descendant donc de David, et donc il y aurait une filiation plus ou moins de père en fils des exilarques. Alors, c'est pas toujours le cas de ce que j'ai vu. Des fois, c'est le frère, des fois, c'est l'oncle. Bon, en tout cas, il y a une filiation par David. Et pas par Shlomo, je ne sais pas pourquoi exactement, mais enfin, par David, la Gemara le dit ici. Et, premièrement, et ensuite, du côté d'Israël, il y a le Nassi aussi qui a une certaine filiation davidique, mais cette filiation, elle passerait par les femmes. Alors, d'abord, je ne sais pas exactement, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pour me donner un peu une image, mais je ne sais pas si c'est juste, hein, je me dis qu'à un moment, les Romains, ils ont voulu détruire tout ce qui se passe au niveau de David et de la royauté de David, et donc ils ont voulu détruire tous les mâles issus de cette famille, et il ne restait que des femmes. Voilà. Bon, c'est une possibilité, mais je n'en sais pas plus. Hein. En tout cas, Tosfot, il dit ça. Et vous savez, ça ne va pas du tout en réalité. Ça ne va pas du tout parce que l'argumentaire, normalement, il est fini. Qu'est-ce qu'il veut avec ça, Tosfot ? Alors, ce qu'il veut, en fait, on le comprend par rapport à la petite remarque que j'ai faite tout à l'heure, à savoir qu'il veut quand même rendre compte de l'aspect que dans le verset, c'est Raché Galouyot, c'est Chevet Yehuda. Alors, il me semble que le mot chevet ici, ça veut dire aussi filiation. Et en fait, la filiation, elle se fait par les mâles. Hein. Et donc, cette filiation-là, elle se reprend ici dans le verset. Et elle dit, pourquoi on va dire que chevet, ce sont les Raché Galouyot ? Parce qu'il y a une filiation masculine. Tandis que les Bnei Israël, ceux qui habitent en Israël, les Israéliens, eux, ils ont une filiation féminine. Et donc, on ne peut pas les appeler chevet. À strictement parler, si on entend dans le mot chevet ici un aspect, comme je l'ai dit tout à l'heure, tribu, donc aspect filiation. Voilà. Il me semble que c'est ça ce qu'il veut faire Tosfot, à savoir il veut un peu faire cadrer le verset à ce qui est dit. Mais ce qui est difficile ici, c'est de comprendre la force de l'argument juridique. Il vaut rien cet argument, en fait, il sert à rien, on comprend pas du tout.
Peut-être qu'il renverse la perspective, c'est vrai. Pour l'instant, Rachid était dans une perspective strictement. Politique, quoi.
Ouais.
Politique pure, c'est-à-dire voilà. Un projet requis auprès de la
du pouvoir, ouais.
Une certaine forme de dégâts.
Voilà, ouais. Bah alors c'est ce que j'ai plus... C'est ce que
circonstanciel, chez Rachid, finalement.
Ouais, ouais. C'est circonstanciel, ça me suffit, pour en tout cas. Et lui, dans une autre dimension. Alors, ok, mais il faut d'abord... c'est ce que j'ai pensé moi aussi, d'accord ? C'est ce que j'ai pensé moi aussi. Mais, si tu veux, d'abord, première question, je me dis, mais pourquoi il parle de ça maintenant ? D'accord. Et surtout que j'ai vu après, donc tu sais, à côté il y a marqué voir Tosfot ici, voir l'autre Tosfot correspondant dans la Gemara. Donc je l'ai regardé. Donc c'est le Tosfot dans Houlin qui reprend à peu près ce Tosfot Mais l'argument, Zacharim, Nekevot n'y est plus du tout. Masculin, féminin, ça y est plus. Alors on va le voir, vous allez voir, ça va aller assez vite, parce que dans la mesure où c'est vraiment le même type. Alors, Kevan, donc c'est sur Shlongmar dans Khulin, c'est un peu le Tosfot qui redit sur le même thème. Kevan Danan Kaifinanéou. Donc il reprend l'expression qui a été prise dans Psachim tout à l'heure, à savoir que les bnés Israël, les bnés Babel sont soumis, sont assujettis aux bnés d'Israël, aux Israéliens. Alors, Beperek Kamadé Sanhedrin, donc il ramène l'Agmara qu'on a sous les yeux. Mashma Ifra. Il semble que ce soit le contraire. L'Inyan Nitol Reshut Ladoun, quant à prendre l'autorisation de juger, Liyot Patour Milechalem, donc lui aussi il fait l'équation, prendre l'autorisation de juger implique donc ne pas être responsable financièrement si on, en cas d'erreur. Deke Amar, comme on a dit là-bas, Meacha Leatam Maane, Meatam Leacha Maï, comme on l'a dit là-bas, à savoir que la possibilité de juger de nomination, enfin, lorsqu'on est nommé en Babel, on peut exercer la justice en Israël, mais pas l'inverse. Yomer Rabbeinu Tam, donc on va revenir avec Rabbeinu Tam. Delinian Isur Veter, Bnei Israël a dit fait, des Hakimet fait, dit que les Israéliens donc ont une supériorité, puisqu'ils sont plus malins. Aval, Linian Afkat Mamon, mais quant à la question d'expropriation, Rosh Agola a dit l'exilar qu'il a une supériorité. Kedamrina Natam, qu'on dit là, Deacha Shevet, Vatam Mechokek. Donc on reprend toute la Gemara, l'argumentaire, Veamrina Namé. Or, on dit, alors vous voyez ici, c'est très intéressant, Veamrina Namé, en fait, c'est ça qui m'a fait tilt. C'était intéressant de voir Tosfot dans ses différentes variations dans le texte, parce que ici, Veamrina Namé, vous voyez, il dit, et il dit aussi. Donc en fait, dans cette façon de parler, Veamrina Namé, on entend bien l'idée que l'argument numéro 1, c'est Shevet Mechokek, qui est un argument juridique, et on dit aussi qu'il s'appuie aussi par un argument sur le verset. Loya sur Shevet Miyuda, et le Rashi en Galut Shevabel, Shirodi Leatam Bemakel, ou Mechokek Memeragla, Velu Beneva, Shalilel, Shemilalim, Torah, Baravim. Donc vous voyez, c'est le même truc, c'est la même idée. Veamrinan, Beperek Bet de Rayot, et là, le dernier argument saute, en fait. La question de la filiation des Roches Galout par les mâles, et la filiation par les femmes, du Nassi d'Eretz Israël. N'apparaît pas du tout. Et on dit aussi, Beperekbet de Horayot, une autre Mara, Nasi Sheberis Israël, En Meviseir, Mishum Deika Bebabel, Rosh Gola, Veachir Mimenu. Alors, sur un autre thème, hein, on ne veut pas ce détail, mais en gros, c'est l'idée que n'apportera, en cas de faute, il faudra du chef d'Israël, il devra apporter, dans certaines circonstances, un sacrifice au Bet Amigdash. Mais à condition qu'il ait vraiment la souveraineté sans reste, à savoir qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient en rivalité vis-à-vis de lui. Dans ce cas-là, il devra amener, s'il a fait une faute, un certain sacrifice au Bet Amigdash. Or, en l'occurrence, il ne pourra pas l'amener. Pourquoi la Gemara le dit ? Parce que, tu sais quoi, en Israël, en Babel, eh ben, tout simplement, il y a quelqu'un qui est plus riche que toi. Alors ici, Agmar, elle dit plus riche que toi, mais il y a d'autres versions qui disent qu'il est plus rachouf que toi, c'est-à-dire plus considéré que toi. Bref, je ne rentre pas trop dans le détail de cette Gemara qui est intéressante, mais en tout cas, ici, vous voyez, l'argument masculin-féminin, il n'apparaît pas du tout. Donc, on voit bien, c'est juste pour montrer à quel point cet argument-là, point de vue juridique, il n'a pas nécessairement sa place, en fait. Il n'a pas nécessairement sa place. Et il me semble en fait que dans le Tosfot précédent, sa place, elle vient juste parce que la Gemara dans Sanhedrin nous amenait ce verset, et donc Tosfot a essayé de faire coller le verset avec la Gemara. Du coup, il a ramené cette anecdote, hein, il faut dire ce que c'est, cette anecdote qui consiste à dire que la filiation de l'exilarque, elle est par les garçons de David. Alors, ok. Alors regarde, on va voir, David, que en fait, ce que ta remarque à toi, elle va être prise au sérieux. Et personnellement, je et en fait, voilà. Alors, je vous ai ramené un tout petit extrait, hein, du Rama sur le Roshen Mishpat. Voilà, sur 3-4, c'est tout au début. Donc dans le Shulchan Aruch, tout au début des lois relatives à la justice. On a ce thème-là qui est traité, et on dit « Reshut shenoten ameler akum bismanazé enoklum ». L'autorisation de juger que donnerait un roi étranger, c'est-à-dire non-juif, actuellement, c'est-à-dire à l'époque, ici on est à la fin de la Renaissance, hein, bismanazé enoklum, c'est rien. Alors, on va essayer de décanter l'affaire. Si on suit la démarche stricte de Rashi et qu'on veut aller plus loin, la raison pour laquelle le Resh Galuta, l'exilarque, avait la capacité de juger, c'est parce qu'il avait une autorisation qui lui venait de Babel, du roi de Babel. Donc on pourrait inférer, dans des situations similaires, par exemple en France au XVIe siècle, le roi qui dit à un rave, il dit, bah, tu sais, toi, c'est toi qui vas être responsable de la nomination des juges juifs en France. Eh bien, puisqu'il aurait cette autorisation, donc à ce moment-là, il saurait les juges nommés dans cet état-là, eh bien, il ne serait pas responsable financièrement devant la justice. Et donc, ouais, l'inférence, elle se fait normalement. C'est-à-dire qu'on voit que la raison principale pour laquelle les juges ne sont pas responsables financièrement devant devant la justice, c'est tout simplement parce qu'ils ont l'autorisation du roi. Ben, a priori, on se serait dit, en inférant, ben, tout simplement, la même chose en France, au XVIe siècle, au XVIIe, au XVIIIe, dans les autres siècles, ben, ce serait la même chose. Dans les autres pays, la même chose, et ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre, ici on a affaire à un argument juridique, et cet argument juridique, il aurait pu être pris en tant que tel pour justifier la possibilité donc, de juger dans d'autres pays juste avec le reshut du roi. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rama? Il dit non, pas du tout, l'argument juridique ici, il ne convient pas. Et il n'y a pas lieu d'aller plus loin, de suivre la conséquence. Il dit « Bismanazé, ce n'est rien ». Alors, il ne se justifie pas plus que ça. Mais bien sûr, ce qui est suggéré, évidemment, c'est la démarche de David, à savoir que, bah oui, parce qu'en Galoute, en Babel, la raison, c'est qu'ils étaient nommés par le Resh Galuta, et la différence, elle serait donc là, dans le cas du Resh Galuta, puisque en plus du fait qu'ils étaient nommés par le Resh Galuta, qui était lui-même un descendant de David, donc il y aurait une forme de résurgence de la malroute de David en Houtz Laharetz, et cette forme de résurgence-là ne se trouvant pas en France à la Renaissance, donc il n'y a plus de raison de dire que le roi qui nommerait des juges, ben, il pourrait autoriser donc à ne pas payer en cas d'erreur. Donc on voit ici, hein, on voit qu'il y a une espèce de tension, à savoir que maintenant il y a une autre lecture possible. C'est pas celle que j'ai proposée. Il y a une lecture qui consisterait à dire, tiens, ça veut dire que la royauté finalement de David, elle se rejoue à un autre niveau en Babel. Et cette royauté, elle se joue entre guillemets véritablement en Houtz Laharetz plus qu'en Israël. Donc ce serait ça, c'est la lecture du Rama, et il dit donc les deux arguments en fait se combinent. Ne me dis pas qu'il y a juste l'argument de l'autorisation du roi perse pour nous dire qu'ils peuvent juger, mais ça se combine avec le fait qu'ils sont de la descendance de David, et ce sont les rois, en fait, les véritables rois de la Galoute, ce sont ces gens-là. C'est les gens qui sont nommés par le Resh Galuta. Enfin, c'est le Resh Galuta. Et donc, en fait, en France, de nos jours, on ne pourrait pas tabler sur le fait que le roi ou le prince ou n'importe qui nomme un juge à ce titre-là. Alors, c'est ce qu'il dit le Rama. Alors, le Gaon de Vilna, il le dit aussi. Sham kepiresh atosfot. Donc, il explique ce Rama. Donc, Reshut, Sham kepiresh atosfot, dibura matril de acha. Aval le piresh rashim, Sham, dibura matril sherodim, kol sheken, le meler hasmo shemane. Alors, c'est toujours un style très, 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 très elliptique, hein, dans le Gaon de Vilna. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, qu'il lit, en fait, une opposition entre le commentaire de Rashi et le commentaire de Tosfot. Alors, moi, je n'ai pas fait ce travail. C'est-à-dire que, j'ai essayé de proposer une lecture qui dit que Rashi et Tosfot vont dans le même sens. En fait, que Tosfot propose une lecture du verset, mais en fait, il est d'accord avec Rashi. Le Gaon de Vilna n'est pas d'accord avec cette lecture. Et il dit non. En fait, l'autorisation du Resh Galouta, elle ne permet de juger que parce qu'ils viennent de la maison de David. Et ce sont eux les vrais dépositeurs de la malroute une fois que l'exil est démarré. Mais par contre, si ce n'est pas quelqu'un qui est de la maison de David, ils ne peuvent pas le faire. Et donc le Gaon de Vilna, il a compris le Tosfot en disant ben, « Oui, bien sûr, il y a l'argument du fait, l'argument final qui est dit par Tosfot, il n'a pas été dit au hasard. Il a été dit parce qu'il faut que ce soit les descendants de David par les mâles et pas uniquement par les femmes. » Voilà. Donc on voit ici la lecture du Gaon de Vilna et moi, j'ai proposé une autre lecture. Alors, après, j'ai cherché un petit peu. Et en fait, Rabbeinu Tam, il s'est expliqué de sa lecture. Et il a dit quelque chose qui va... on va le lire ensemble. Alors, c'est un exemple, c'est une chute de Rabbeinu Tam. On n'a pas trop l'habitude de le lire, mais bon, ça vaut la peine quand même souvent de le lire. C'est toujours très intéressant. Donc, c'est une longue chute de Rabbeinu Tam sur la question du jugement en Chutz La'aretz. Et il conclut, en fait. Hein, je vous ai juste dit la conclusion. Klalo Shel Davar. Donc... conclusion. En dina de kol meler ou meler aomed meshane dina et la dina de malchuta bidvarim chez inhigu kadmonenu pardon. C'est-à-dire qu'en fait, il veut dire par là que un roi ne peut exercer un jugement, contraindre ses sujets que relativement à des thèmes classiquement admis comme prérogatives du roi. Bon, voilà, en gros, aller à la guerre, prendre les impôts, des choses comme ça. Donc, voilà les prérogatives du roi. Pourquoi ? Deifki, alors je vous donne juste cette petite phrase, mais c'est cette phrase d'après qui m'intéresse au passage, dans la suite. Deifki ou chachamim mamon beminag amalchut kederer sheifki ou mipne takanat ashavim ou mipne tikkun haolam ou mipne darke shalom. Ce qu'il dit ici, donc deifki ou chachamim, les chachamim ont exproprié l'argent des gens beminag amalchut comme l'usage classique des rois, à savoir la possibilité de prendre des impôts, de prélever des impôts, de faire la justice, pour la même raison chez Ifkiou et Pnetakanat Hashavim, pour la même raison qu'ils ont fait des lois sociales, hein, je vais être rapide, des lois sociales de cet ordre-là. Mipnetikuna Olam, par exemple, des lois sociales pour la bonne entente entre les gens. Mipnetarke Shalom. Alors, c'est une langue un peu codée, mais ce qui est dit ici, en fait, c'est que, essentiellement, on a affaire à une takanat chachamim, c'est-à-dire ce que les chachamim, ils ont mis en place lorsqu'ils sont venus en exil, et ils ont dit, on va donner la possibilité, enfin selon Rabbi Noutam, la possibilité, pas la seulement la possibilité, mais le fait qu'à partir du moment où un roi aura donné la possibilité de juger, eh ben, à cause de cette notion-là de Efker Bedin Efker, des Ifki ou Chachamim Mamon, c'est les Chachamim ont décidé que, en fait, ici, ce qu'ils sont en train de dire, c'est Dina des Malchuta Dina. C'est-à-dire que de dire que le roi, il est souverain, et on va écouter la règle du roi dès lors qu'on est en exil. Et c'est à ce titre-là que le juge va être dispensé, enfin, il ne sera pas obligé de payer s'il fait une erreur. Donc, en fait, Rabbeinu Tam ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Bon, je l'ai fait un peu court, il était un peu plus long, il était même beaucoup plus long. J'ai essayé de dire les mots principaux, mais c'est vrai que ça n'apparaît pas forcément assez nettement ici. C'est l'idée qu'en fait, lui, Rabbeinu Tam, il prend cette notion de Resh Galouta comme, vous voyez, une possibilité d'appliquer cette notion de Dina des Malchuta Dina. Alors, c'est quoi Dina des Malchuta Dina ? C'est le fait que la loi du roi est la loi. C'est-à-dire que c'est un principe qu'on voit plusieurs reprises dans la Gemara. C'est Shmuel qui le dit, d'ailleurs, le même Shmuel qui est en haut. Il le dit, et il dit qu'on applique la loi du pays. On applique la loi du pays. Alors, concernant essentiellement les questions d'impôts et les questions financières, les obligations financières des uns et des autres, et en fait, ce qu'il dit ici, Rabbeinu Tam, c'est que c'est les Chachamim qui ont dit qu'on doit appliquer la loi du pays, on doit payer ses impôts, quoi. Et donc, du coup, pour la même raison, ils ont dit aussi que quand le roi il va nommer quelqu'un, il va le nommer, et cette nomination-là, elle va être effective, et elle va lui permettre au juge en question d'être juge et en fait de faire véritablement son métier de juge, parce qu'un juge qui va payer financièrement dès qu'il va faire des erreurs, ça va le limiter beaucoup dans ses capacités. Donc en fait, ce que les Chachamim disent, un peu mitnet Dark et Shalom, quoi, ils vont dire qu'en Babel, et donc moi j'entends de là très clairement en Chutz Laaretz, la raison essentielle pour laquelle les juges peuvent juger sans pour être autant responsable financièrement, c'est parce que Mipnei Darkei Shalom, Mipnei Dinanei Al-Khotanina, pour essayer d'avoir une bonne entente, si vous voulez, au niveau du peuple. Ce que je, donc je vois dans ce Rabbeinu Tam là un peu un appui à ma lecture, quoi, et pas comme voudrait le faire le Gaon de Vilna et le Rama. Voilà. Donc, je vous dis, j'ai donné juste l'élément, parce que je voulais quand même faire le travail avec vous de lire Rabbeinu Tam en entier, de voir comment il faisait le travail. Mais il me semble que dans cette shoot de Rabbeinu Tam, c'est assez clair qu'il n'emploie pas du tout cette question de la lignée davidique, des rois, du Reich Galout. Bon, voilà un petit peu pour la structure générale, disons, selon Rabbeinu Tam. Et donc, maintenant, on peut peut-être revenir à la question initiale, hein, mais je pense que tu as bien tablé. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il y aurait, entre guillemets, une prérogative de Babel sur Israël? Tout simplement parce qu'il y a l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir à Babel, elle se fait au niveau... Elle va jusqu'à une dimension coercitive. Ce qui donne un type d'exercice particulier qui a une supériorité par rapport à un type d'exercice qui est juste qui se produit en Israël, où en Israël, ils n'ont pas cette prérogative-là. Et donc, cette suprématie, si vous voulez, elle ne vient pas du fait qu'il y aurait un ascendant métaphysique de l'exil sur Israël ou l'inverse, mais tout simplement que l'exigence qui est de la loi en Babel, elle est à la hauteur d'une exigence de coercition. Et donc ça donne une possibilité pour les gens qui habitent en Israël, en Babel, de transférer leurs compétences en fait en Israël, parce que en fait la nature de leur jugement, elle est un peu plus supérieure, dans la mesure où ça va plus loin leur jugement que les Israéliens. Et c'est pas, je dis, une supériorité métaphysique, les Israéliens, les Babyloniens, etc. Ça vient juste en fait dire concrètement qu'il y a une capacité, une compétence juridique qui est plus importante, mais pas liée véritablement à de la chorma, de la sagesse, de l'intelligence, hein, il leur dit, hein, ils sont très intelligents, mais vraiment parce que, en fait, ils ont la capacité coercitive qui serait un peu plus faible en Babel. Et je pense, alors ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, mais si vous voulez, il faut le dire, dans la mesure où c'est seulement une fois qu'on a évacué cette lecture-là proposée par le Rama et suivie par le Gaon de Vilna, qu'il me semble qu'on peut dire ce genre de choses-là. Parce que si on dit qu'il y a une suprématie, à ce moment-là, effectivement, une suprématie, entre guillemets, moi j'appelle ça métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a une malroute de David qui passe par les hommes qui serait plus importante, et serait ça la vraie malroute qui se retrouverait cette fois-ci en Babel. On ne comprend pas bien l'enjeu de la Gemara. Une fois qu'elle a été dit son truc, elle a fini. Alors que si maintenant on dit les choses en termes de compétences judiciaires, à ce moment-là, on peut comprendre mieux l'enjeu de Massah Ummatan, l'enjeu dans la Gemara. Voilà ce que je voulais présenter ce soir.
Merci beaucoup, Franck, pour cette.